Encore bonjour à vous. Et nous continuons dans notre série sur le livre, ou dans le livre des juges plutôt. La semaine dernière, nous commencions avec ce livre-là, que je décris un petit peu comme étant un livre pas très joyeux, assez difficile, tellement les événements qui s'y déroulent sont durs. Je vous propose ce matin de méditer le chapitre 2, à partir du verset 20, jusqu'au chapitre 3, verset 6. Ce petit passage-là, de 2:20 à 3:6. Et ce matin, j'ai pour ambition de vous faire un petit peu découvrir les coulisses d'une préparation de prédication. Et tout à l'heure, Samy va projeter des choses à l'écran et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Mais je m'en vais vous lire notre texte du jour. Juges chapitre 2, à partir du verset 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a enfreint mon alliance que j'avais prescrit à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie que l'Éternel, comme leurs pères, s'y sont appliqués. Et l'Éternel laissa en repos ces nations sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrées aux mains de Josué. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Les cinq ducs des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Aman. Ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve pour qu'on sache qu'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'ils avaient prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Yébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et rendirent un culte à leur Dieu. Amen. Il nous arrive d'être particulièrement, et vous serez d'accord avec moi, rebelles à ce que Dieu nous demande de faire. Particulièrement réticents à des ordres qu'il pourrait nous donner. Et bien sûr, les conséquences sont souvent fâcheuses. Et je suis le premier à le dire. Et l'une des manières dont Dieu s'emploie pour nous corriger, pour nous reprendre, c'est de nous placer dans des situations où notre seule option, c'est de crier à lui. C'est de nous tourner vers lui et de dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Parce que j'ai été rebelle. Et dans le livre des juges, le peuple d'Israël fera cette expérience, mais à de nombreuses reprises. Souvent, très souvent, de toute façon, tout au long du livre, il est question de ça. C'était devenu une coutume chez le peuple d'Israël de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plusieurs textes en font mention, comme un refrain qui revient encore et encore, en particulier lorsqu'il s'agit d'idolâtrie. Et le peuple a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et donc, par le passage que nous allons méditer ce matin, j'ai pris le parti de vous faire voir un petit peu les coulisses d'une préparation de prédication. En tout cas, quelque chose de particulier qui est très répandu dans l'Ancien Testament. Et vous allez le voir. Alors, je demande à Samy de projeter en premier lieu l'ensemble du passage, si possible. Et puis nous verrons. Bon, c'est écrit petit, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Alors, voici notre texte. Vous avez du passage du verset 20, chapitre 2, verset 20, merci, jusqu'à 3-6. Et celui qui est attentif lorsqu'il lit l'Ancien Testament, en tout cas pas mal de textes de l'Ancien Testament, il fait attention à un certain nombre de détails, des éléments de paroles, de mots qui peuvent revenir, des choses qui peuvent se répondre. Et par exemple, vous avez le verset 20, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, donc on s'arrête là, et ça a un parallèle dans le verset 6 du chapitre 3. D'accord ? Et on va voir alternativement des versets qui se répondent comme ça, à chaque fois, jusqu'à ce qu'on arrive à un verset central qui n'a pas de correspondance. Tu mets la slide suivante, s'il te plaît. Bon, c'est en couleur. Si vous remarquez, ne lisez pas, visualisez seulement les couleurs. Le verset 20, j'ai mis une partie en rouge, qui trouve son correspondant ou son parallèle au verset 6, comme j'ai dit tout à l'heure, du chapitre 3. Ensuite, vous avez le verset 21, « Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa », qui trouve une correspondance au verset 5 du chapitre 3. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éviens ou des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébousiens. Vous avez ensuite en bleu, c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve. On peut s'arrêter là, qui trouve une correspondance au verset 4 du chapitre 3. Ces nations servirent à mettre à l'épreuve Israël. Le verset premier du chapitre 3, qui trouve son correspondant au verset 3, il est question des nations. Alors le verset annonce un certain nombre de peuples qui résident dans le pays. Et le verset 3, eh bien, il cite ces nations-là. Et on arrive au verset 2, avec un verset qui n'a pas de correspondant. Et il nous est dit, il voulait seulement, et là il s'agit de Dieu, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre. En général, on fait un petit résumé de tout ça. Slide suivante. Et on met ça sous cette forme-là. Et on note A, le premier, son correspondant, le note A prime, ainsi de suite, B, en bas, B prime, C, C prime, D, D prime, jusqu'à arriver au milieu, un E qui n'a pas de correspondant, avec Israël qui doit apprendre la guerre. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, beaucoup de texte fonctionne comme ça. C'est pas merveilleux, ça ? Pour vous dire l'intention de l'auteur derrière ce qu'il écrit et ce qu'il veut que nous voyons, ce sur quoi il veut mettre l'accent. Et c'est à ça que ça sert. C'est une façon d'écrire qu'avaient les auteurs de l'Ancien Testament. On appelle ça un récit en chiasme, d'accord ? Et ça met l'accent sur ce que l'auteur de l'Ancien Testament veut nous faire comprendre. Et ce qu'il veut nous faire comprendre ici, c'est qu'il veut que la nouvelle génération qui rentre dans la terre de Canaan apprenne la guerre. Et quand j'ai vu ça, moi, je fus choqué. Je ne vous cache pas que je fus choqué. Pourquoi Dieu voudrait que les enfants d'Israël apprennent la guerre? Et parce qu'il nous est dit qu'ils n'ont pas connu ça. Et Dieu veut qu'ils connaissent ça. La question c'est pourquoi? Pourquoi il voudrait que ses enfants connaissent la guerre? La pensée globale qui se dégage du texte, de par sa structure, on appelle ça voir la structure des textes, c'est qu'Israël, n'ayant pas gardé son alliance avec Dieu et ayant désobéi aux ordonnances que Dieu avait données, Dieu a résolu de les châtier dans un premier temps, et ça on le voit de part et d'autre, Dieu a résolu de les châtier parce que eux n'ont pas chassé les Cananéens comme il était demandé, comme il était prévu de le faire. Pour autant, Dieu décide de leur infliger une mise à l'épreuve, mais avec un but bien précis, celui de connaître ce que c'est que la guerre. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire plus tard. Alors, développons tout ça. Premièrement, d'abord la transgression d'Israël. On le voit en A'. La transgression d'Israël, le péché d'Israël. Et la semaine dernière, je vous disais que le peuple avait échoué dans sa conquête de la terre promise, et cela parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils ne voulaient pas combattre les étrangers ou les peuples païens de la terre promise. Ensuite, le peuple n'a pas cru Dieu suffisamment capable de les aider à mener une victoire dans la conquête. Et finalement, ils ont accepté de vivre une vie de compromission au milieu des Cananéens. Et ça, on le voit surtout dans le B'. Le peuple se mélangea aux autres nations. Le verset 20 du chapitre 2, le verset 6 du chapitre 3, nous avons vu que ces deux versets étaient parallèles, bien sûr. Ces versets sont plus spécifiques quant au péché commis par les Israélites. Non seulement ils transgressent l'alliance de Dieu, mais ils l'ont fait en se mélangeant à des nations païennes. Le verset 6, ils prirent pour femmes les filles de Canaan et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles. Ça, c'est la première bêtise. Et le verset qui continue, il dit, et ils servirent leur Dieu. Lisons Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 6, et nous allons voir pourquoi c'est une bêtise. Deutéronome 7, versets 1 à 6. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car il écartera de moi tes fils, qui rendra un culte à d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Voilà pourquoi c'est une bêtise. C'était un ordre donné par Dieu depuis des siècles. Interdiction de prendre en mariage des filles ou des garçons étrangères à la nation d'Israël. Et bien sûr, le verset 1 de notre texte, non, plutôt le verset 20, nous dit que Dieu s'est mis en colère contre ça. Ce texte de Deutéronome est un avertissement clair de ce que Dieu attendait des Israélites. Et dans le livre des Juges, nous voyons qu'ils ont fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Exactement ce que Dieu a demandé de ne pas faire. Alors Dieu s'est mis en colère, bien sûr, et de bon droit. Lorsque nous fautons, lorsque nous allons contraire à ce qu'il veut, il se met en colère. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18, nous dit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne le respectent pas sa volonté. » Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Alors j'aurai deux remarques à faire. On pourrait trouver exagéré que Dieu exige de la nouvelle génération, par exemple, de garder une alliance qu'ils avaient contractée, mais bien avant, en tout cas leur père avait contracté avec Dieu, mais des siècles avant. Et plus je réfléchissais à ça, plus je m'interrogeais, de quel droit est-ce que Dieu exige, par exemple, de ma fille, qu'elle respecte une alliance qu'il a contractée avec moi, ou avec mon père, ou avec mon grand-père. Pourquoi est-ce que Dieu se fâcherait pour quelque chose qu'il me demande de faire à moi, alors que ma fille ne le fait pas? Et c'est exactement ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Dieu contracte une alliance avec tous ceux qui étaient autour du mont Sinaï. Et des siècles après, lors de la conquête, il se fâche parce que la nouvelle génération refuse de faire ce qu'il avait demandé. Sur la base de quoi se fâche-t-il? Eh bien, sur la base du devoir de mémoire et de transmission. L'importance du souvenir de génération en génération des actes de l'Éternel pour son peuple est souvent soulignée dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, par exemple au chapitre 12, 9 plaies sont passées. Les Israélites en esclavage en Égypte se préparent au passage du 10e plaie, ou une plaie, de la 10e plaie, pardon, et au verset 24, verset 27 de l'Exode chapitre 12. Voici que Dieu leur dit, par l'intermédiaire de Moïse, au sujet de la Pâque, vous observerez cela comme loi, pour vous et pour vos enfants, à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie cet usage ? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Devoir de mémoire et de transmission. Deutéronome 9, verset 4. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alors oui, Dieu a raison d'être en colère. Non seulement en colère contre la nouvelle génération, mais aussi contre les parents qui n'ont pas fait leur travail, parce qu'ils avaient le devoir de transmission. Ces actes constituent la preuve de la puissance et de la fidélité de Dieu envers son peuple, et donc le fondement de leur foi. Tout ce qui s'est passé dans le désert, 40 jours au lieu de 40 jours, 40 ans, pardon, au lieu de 40 jours, la traversée de la mer Rouge, la manne qui tombe, même les 10 plaies en Égypte. Les enfants d'Israël devaient tout raconter de génération en génération à leurs enfants, pour qu'ils n'oublient pas, pour qu'ils sachent quel Dieu les a délivrés de l'Égypte et ne l'ont pas fait. Et moi, ça me pose question sur la transmission que je fais à mes enfants de la parole de Dieu. Est-ce que, premièrement, mon comportement reflète ce que je dis de derrière la chair à la maison? Parce que si je vous dis de faire ce qui est bien et qu'à la maison, c'est une toute autre histoire, ça va pas, hein? Ça va pas. Le Deutéronome met en garde du danger d'oublier Dieu lui-même. Alors oui, il se met en colère lorsque ça arrive. Il châtie lorsque ça arrive. Et souvent, on se demande, mais pourquoi mon enfant et tout ce que j'ai pu faire, et il n'est pas intéressé par la parole de Dieu? Je connais des parents qui pleurent, hein, qui pleurent chaque jour parce que... Posons-nous la question. Deuxième remarque. Je crois qu'il y a dans nos églises des chrétiens qui ne voient pas quel problème il y a à se marier avec une personne d'une confession différente. Et moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ce soit une personne de confession différente ou une personne qui n'a aucune confession, qui se dit athée, par exemple. Et peut-être que ces personnes cherchent un texte biblique qui dise noir sur blanc, tu ne dois pas te marier avec une personne de confession différente. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Par contre, je peux vous trouver d'innombrables textes qui vont dans ce sens. Lisez le livre de Juges. Et quand vous aurez fini de lire le livre des Juges, relisez le livre des Juges. Et vous comprendrez que Dieu interdit le mariage de confessions différentes. Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, ce n'est pas uniquement l'union de deux chairs, de deux corps. Le mariage, c'est une mise en commun, oui, de deux corps, mais de deux cœurs, de deux esprits qui partagent une spiritualité avec Dieu, une cohérence de foi, de conviction. Alors, si je dois apporter une petite nuance, parfois ça marche, hein, ça fonctionne. Parfois, vous pouvez très bien avoir une personne de confession différente et ça fonctionne. Toute leur vie, ils le vivent sans jamais qu'il y ait de soucis dans le foyer, à proprement parler. Ils ne vont pas partager la même spiritualité, bien sûr, mais le foyer fonctionne. Ça arrive. Ça doit être l'exception qui confirme la règle. Mais en définitive, ce que Dieu dit, c'est que tu, en tant qu'Israélite, tu vas épouser une Israélite qui partage la même foi que toi. Parce que je défie un chrétien d'épouser un musulman et de dire que ça va aller. Deuxièmement, le châtiment et la mise à l'épreuve du peuple. En effet, comment Dieu manifeste-t-il sa colère contre Israël dans notre texte? Verset 21, « Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué a laissées. » Alors qu'à la base, il s'agissait justement pour les enfants d'Israël de chasser ces peuples-là. Et paradoxalement, le texte nous fait entrevoir une lueur d'espoir, malgré tout, concernant le sort du peuple. Parce que dans la punition, il y a une lueur d'espoir. Il y a une solution, il y a un moyen. Et en se proposant de mettre les Israélites à l'épreuve, Dieu, qui apparaît en juge de la situation, montre qu'il n'abandonne pas son peuple définitivement. Si je le mets à l'épreuve, c'est que j'attends d'eux un résultat. Et je me mets dans un coin et je regarde, voir comment ils s'en sortent. Pourtant, ils sont punis. Mais j'attends de voir comment ils s'en sortent. J'attends de voir s'ils acceptent ma proposition, s'ils acceptent de se mettre en conformité avec mes commandements à moi, avec mes règles de vie à moi, s'ils acceptent de suivre les lois que j'ai données à leur père il y a fort longtemps. Mais ils sont punis. Une lueur d'espoir, même au sein de la punition. Ce que Dieu vise avec la mise à l'épreuve du peuple, c'est l'obéissance, tout simplement. L'obéissance au commandement qu'il avait donné à leurs ancêtres. Rappelez-vous que le peuple sort d'un temps avec Josué où tout allait bien, où le peuple connaissait Dieu, savait se battre. Et on va expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure, se battre. Cette guerre dont il est question au milieu de mon chiasme. Le peuple savait, et c'est pour ça qu'ils ont remporté des victoires avec Josué. C'est pour ça qu'ils ont commencé la conquête sans trop de problèmes. Une ville comme Jéricho, réputée imprenable, ils l'ont eue sans lever le petit doigt. Enfin, sans lever le petit doigt. Ils ont quand même marché autour. Mais sans une arme dans les mains, avec des trompettes et leur voix. C'est l'Éternel qui combattait pour eux. C'est l'Éternel qui combattait pour eux. Et ils allaient comme ça à la conquête du territoire, de la terre promise. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple guerrier. C'était des descendants d'esclaves. C'était pas un peuple guerrier. Pourtant, ils remportaient des victoires sur des nations beaucoup plus nombreuses, des nations beaucoup plus fortes. Dieu combattait pour eux. Et qu'est-ce que Dieu voulait vraiment? Ce que Dieu voulait vraiment, et on peut s'étonner de ce que toutes les manœuvres engagées par Dieu dans ce passage ont pour justification que les nouvelles générations d'Israélites, comme j'ai dit, apprennent la guerre. Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment? De quoi parle-t-on lorsqu'on dit que Dieu voulait qu'ils apprennent la guerre? De quelle guerre il s'agit? Une chose est sûre, c'est que le peuple d'Israël n'était pas un peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, bagarreur ou guerrier. Bien au contraire, paisible. Rappelez-vous qui était le fondateur du peuple? Israël, berger. Berger, c'était une nation de bergers, d'anciens esclaves en Égypte. Et du coup, les batailles sont des batailles qu'ils remportaient grâce à Dieu, avec la puissance de Dieu, sans combattre. Et ce que les nouvelles générations doivent connaître, c'est le combat contre le mal qu'exigeait la sainteté de Dieu ? Contre le mal spirituel. Et c'était ça le combat. Un combat spirituel. Les anciennes générations ont connu ce combat. Bien qu'ils avaient été libérés d'Égypte, la nouvelle génération, ils étaient encore esclaves de leurs mauvais penchants, de leurs mauvais désirs, de leurs mauvais comportements. Et c'est ce combat-là qu'ils devaient mener. Pas un combat avec des armes. Ils étaient tellement rebelles qu'au lieu de 40 ans, je le redis, hein, vous mettez 40 jours à côté de 40 ans, et Dieu prend la décision de zigouiller tous ceux qui étaient au-dessus de 20 ans. Vous vous rendez compte? Tous ceux au-dessus de 20 ans, éliminés. Et pendant ce temps-là, ils apprenaient à connaître Dieu, à marcher avec Dieu, à marcher dans ses voies, selon ses commandements. C'était un apprentissage difficile, mais ils ont appris comme ça. Et pour eux, c'était un combat. Dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui encore, nous parlons de sanctification pour nommer ce combat. La sanctification est ce processus de délagage, de purification, dans lequel nous nous engageons, et qui peut être assimilé à une guerre, parce que nous menons une guerre. Beaucoup de chrétiens semblent avoir oublié, ou semblent ne pas avoir compris, que devenir chrétien, c'est s'engager dans une guerre. Et il faut dire ça aux gens quand ils deviennent chrétiens, ou même avant de prendre la décision. Devenir chrétien, c'est s'engager dans une guerre. La marche avec Christ est un combat de tous les jours. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Du tout pas. Du tout pas. Beaucoup de textes dans le Nouveau Testament nous renvoient à cette réalité-là. Et en voici deux exemples. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » C'est un combat. Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat, la vie chrétienne. Josué a été un homme sage, droit. Mais après sa mort, une longue période de chaos moral et spirituel a commencé. Et c'est ce que raconte le livre des Juges. L'intention du peuple d'obéir à Dieu cède la place à leurs désirs effrénés, parce que bien qu'ils aient été libérés d'Égypte, ils sont encore esclaves de leurs désirs, de leurs péchés, de leurs mauvais comportements. Chacun suit sa propre voie. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je l'entends. Quel que soit ce que tu dis. Les générations passent et elles oublient complètement Dieu. Ce même Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, ce Dieu qui les a libérés de l'esclavage, qui les fait entrer dans une terre longuement promise à leurs ancêtres. L'allégeance à Dieu est remplacée par une idolâtrie rampante, courante. Ben, les gens ne se cachaient même plus pour adorer leurs idoles en Israël. Je le redis ici, le chrétien est engagé dans une guerre. Non pas une guerre avec un ennemi visible, mais une guerre dans laquelle notre principal adversaire s'avère être parfois nous-mêmes. Il n'y a pas pire, hein, ennemi que soi-même. Et le diable, intelligent qu'il est, ben il se sert de ça. Vous savez, parfois, le diable, il a bon dos. Hein. Des fois, on fait nos bêtises et puis on dit, c'est le diable. Alors que c'est vous-même. Si, comme Israël, nous oublions cet aspect de la foi chrétienne, nous risquons de nous retrouver très vite dans la même situation qu'eux. Très vite. Ils devaient se battre, mais ils ont refusé de le faire parce qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont refusé de mener le difficile combat de la sanctification. Être rebelle envers Dieu, c'est ça, c'est refuser de se battre. Refuser le combat de la sanctification, c'est refuser de nous battre contre tout ce qui est charnel en nous, tout ce qui est de l'homme naturel chez nous. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'apôtre Paul nous invite à sortir de nos illusions. Illusions de voir que nous pourrions être agréables à Dieu tout en vivant une vie déréglée. Ça, c'est pas possible. Paul nous encourage à nous engager dans le combat de la foi. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu marcher dans nos souliers comme un homme. Et contrairement à nous, contrairement à ses ancêtres, il a fait le travail. Il a marché en homme juste, sans péché, jusqu'au bout. Et ce combat l'a emmené à la croix, remporter la victoire à la croix, de façon à ce que nous puissions avoir la victoire sur le péché, sur le mal. Est-ce qu'il aurait travaillé en vain? Est-ce que notre Seigneur a travaillé en vain? Jésus a remporté la victoire à la croix. Et il nous demande de mener maintenant notre combat et de remporter nous aussi la victoire. Nous avons chanté, conduit par notre frère un peu plus tôt, « Au monde, je dis non. Joyeusement, je porte ma croix. » Joyeusement, hein? Joyeusement. Ah, il est pas joyeux, hein? Non, c'est difficile. C'est difficile. Nous vivons dans un environnement qui ne nous aide pas du tout. Et je vous assure, quand on s'épousait avec mon épouse, quand on faisait des projets pour se marier il y a 18 ans, je me suis vraiment demandé, est-ce que ça valait le coup de mettre au monde des enfants? Parce que déjà, il y a 18 ans, le monde était pourri. Est-ce que ça valait le coup de les faire entrer dans un tel monde où les combats sont difficiles? Je pense que ça vaut le coup quand même. Ça vaut surtout le coup de connaître le Christ et de marcher avec lui. Alors si j'ai un encouragement à nous donner ce matin, oui, c'est de nous engager. Vraiment de nous engager. Ne donnons pas à l'ennemi de nos âmes une faille pour qu'il puisse exploiter. Mais engageons-nous dans ce beau combat de la sanctification. Nous qui avons déjà répondu oui au Seigneur, engageons-nous et laissons-nous transformer. Laissons-nous transformer de façon à être agréable à notre Seigneur. Que son nom soit béni.
Amen.
Amen. Je vous invite à la prière.